L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez ou que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus, c'est une grâce, c'est un honneur. Aujourd'hui nous recevons encore une fois Jonathan Junior Mambou. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous qui venez de nous rejoindre.
Et nous sommes toujours en train de partager sur la parabole du Samaritain. Nous prions Dieu que cet enseignement va porter du fruit dans vos vies, va porter du fruit pour l'éternité et que cela va vous faire énormément de bien. Avant d'aller plus loin, je vous invite à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi aujourd'hui pour entendre ta parole. Seigneur, instruis-nous, guide-nous, relève-nous les grands secrets de cette parabole, Seigneur, afin de maximiser notre vie chrétienne, afin de maximiser nos réussites de vie chrétienne ici dans ce monde. Nous te remettons, Seigneur, le reste des 30 minutes entre tes saintes mains. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Jonathan. Amen. Bonjour, encore je dirais le bonjour, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là, branchés pour écouter cette émission, Venez à Jésus, où nous parlerons tout au long de cet enseignement où nous allons nous atteler sur la parabole du Samaritain. Déjà, à titre d'introduction, nous n'avons pas commencé à traiter cette parabole, mais nous nous sommes attelés à attirer votre attention sur le fait que, d'abord, le fait que c'est une parabole, c'est quelque chose à considérer, qui devrait attirer notre attention, parce que Dieu a utilisé aujourd'hui les paraboles, je voulais même dire dans le passé, ces paraboles régorgent des mystères qui enseignent le royaume céleste, ce qui ne devrait pas pousser beaucoup à dire que non, ce sont des fables, ce sont des histoires, non. Nous l'avons dit dans l'émission précédente. Il ne nous est pas facile à nous d'authentifier, ou je dirais de dire avec exactitude ce qui est dans le spirituel. C'est très difficile, mais nous devons nous référer à la parole, comme a dit Paul. Pour ceux qui lisent la Bible, on peut lire dans 1 Corinthiens 13, Paul dit ceci, dans le verset 13 et au verset 12, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Nous voyons aujourd'hui au moyen d'un miroir. Le miroir des chrétiens, c'est la parole. La parole de Dieu, c'est notre miroir. Pour ceux qui sont des lecteurs, vous vous souviendrez du texte de Jacques, où Jacques dit que nous ne devons pas être des auditeurs oublieux, comparables à ceux qui regardent leur visage dans un miroir naturel et aussitôt oublient comment ils étaient. Non, nous devons être de ces hommes qui, lorsque nous regardons sur un miroir, c'est-à-dire lorsque nous lisons la parole, parce que la parole nous montre nos défauts, nous devons directement changer. S'il y a de la saleté dans notre être, nous devons enlever cette saleté. Donc, la parole de Dieu, c'est un miroir qui nous aide à nous connaître, qui montre notre marche. Eh bien, Paul voulait juste dire qu'aujourd'hui aussi, nous regardons le ciel au travers d'un miroir. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous dit, par exemple, qu'il y aura enlèvement. Et que, avant cet enlèvement, il y aura la résurrection des morts. Nous aurons un corps incorruptible. Mais en réalité, si je devrais demander à un théologien ou à un grand pasteur, comme vous pouvez le vouloir, il ne saura pas nous expliquer avec exactitude le type de matière de corps que chacun aura. Bon, c'est un corps incorruptible. Ce sera comment? Un corps qui ne pourrit pas. Il sera de quelle matière? Personne ne pourra expliquer ça. Aucun théologien également ne pourra nous expliquer. Des versets comme ceux que Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si je posais la question, bon, ces demeures-là seront en quelle matière? En briques? Seront comment? Ils seront incapables d'expliquer. Notre Père, C'est ce que le miroir nous renseigne. Donc il y a des choses difficiles à expliquer avec exactitude en ce qui concerne l'éternité, en ce qui concerne le royaume. Mais au moins nous voyons pour l'instant, au moyen de ce que la parole nous présente comme renseignement, mais bientôt, par la grâce de Dieu, avec l'attachement que vous montrez pour le Seigneur, c'est-à-dire pour sa parole, nous verrons clairement. Il n'y aura plus d'énigmes. Voilà un peu. La parole de Dieu elle-même, c'est aussi comme une parabole. Comme une parabole, et seuls les disciples sont à même capables de pouvoir comprendre la pensée de Dieu cachée dans ces paraboles. Et nous l'avons dit, à l'image de l'épouse de Samson, qui est en fait l'image de l'Église. Aujourd'hui, le monde a besoin de connaître des réalités cachées. Elle devrait les connaître au travers de l'épouse. Et je reviens dans ce texte de Juge, parce qu'on s'est limité là. Vous savez, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs l'attitude de ces hommes qui sont venus en fait dans Juge 14, en fait célébrer le mariage de Samson, voyant qu'ils étaient incapables d'expliquer l'énigme de Samson, de Juge 14, ils ont commencé, je dirais, ils se sont pressés à acculer la femme de Samson, lui menaçant même que si tu ne nous expliques pas cette énigme, nous allons te tuer et nous allons tuer ta famille. Et regardez la réaction de la femme de Samson, pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Et il répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Elle pleurait auprès de lui, regardez bien, pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Voilà le mot encore. Elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Le mot tourmenter, je dirais, le verbe tourmenter, me rappelle l'attitude qu'a eue la veuve dans la parabole du juge unique. Cette veuve était en face d'un juge qui était unique, mais c'était le même mot. La veuve tourmentait le juge unique. Elle le tourmentait. Et ce juge a dit, c'est vrai que je suis un juge qui n'a d'égard pour personne, mais néanmoins, comme cette dame m'importune, voilà, c'est dans le verset 5, néanmoins parce que cette veuve m'importune, ça a le même sens que tourmenter, Luc chapitre 18, verset 5, c'est-à-dire l'épouse de l'époux, c'est-à-dire l'église qui est épouse de Samson, c'est-à-dire de Jésus-Christ, doit toujours importuner son maître, son époux, parce que son époux a des secrets qu'il doit lui donner, et le monde a besoin de ces secrets pour donner leur vie à Christ. Le monde a besoin de toi, mon frère. C'est pour ça que tu dois passer ta vie à chercher Dieu par la prière. Tu dois passer ta vie à chercher la connaissance de Dieu, parce que la Bible elle-même, c'est une parabole. Si tu ne cherches pas, tu pourras lire cette Bible comme un journal. Vous savez, beaucoup de gens lisent la Bible comme un journal. Or, c'est un livre spirituel qui cache des vérités merveilleuses concernant notre vie, notre manière de diriger cette vie sur terre, mais aussi concernant l'éternité. Nous ne devons jamais lire la Bible comme un journal. Mais si nous cherchons, si nous creusons, nous verrons que la Bible regorge des mystères extraordinaires. Je voudrais vous dire vrai. Je vais lire un texte dans Ésaïe 28 qui montre que même la Bible, c'est un livre qui demande beaucoup d'efforts pour savoir des mystères. Je suis dans Ésaïe 28, précisément au verset 9. Regardez ce que le prophète dit. À qui veut-on enseigner la sagesse? La sagesse, c'est la parole. Hein? À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévés, c'est vrai, qui viennent de quitter la mamelle? Je vais continuer au verset 10. Mais déjà là, je dis, la parole, selon le prophète, c'est pas pour des enfants qui viennent d'être, c'est vrai. C'est pas pour des enfants qui viennent de quitter la mamelle. Un peu pour dire, la parole, c'est pour ceux qui sont matures, ceux qui ont grandi. Je suis au verset 10, regardez. Car c'est précepte sur précepte. Précepte sur règle, règle sur règle. La phrase qui m'intéresse, c'est la dernière phrase. Un peu ici, un peu là. La parole de Dieu, c'est comme ça. C'est un peu ici, un peu là. Ça veut dire quoi, un peu ici, un peu là? C'est-à-dire, la Bible de la Genèse à l'Apocalypse a une seule pensée. Mais le Seigneur n'a pas disposé les choses telles que, quand tu vas lire à Genèse jusqu'à Apocalypse, tu as directement l'idée de la pensée de Dieu. Non. C'est-à-dire, Dieu n'a pas disposé ça de façon suivie. C'est ce que je voulais dire. Dieu a dispatché ses idées dans la Bible. Il prend une idée, il met ça dans Genèse. Tu peux pas la comprendre, mais pour la comprendre, tu vas la comprendre en lisant, par exemple, un autre texte dans Matthieu. Après, tu vas lire un autre texte dans Agée. Tu vas encore l'associer avec un autre texte dans Sophonie, dans Zacharie. Et puis, tu comprends l'idée de Dieu.
La pensée de Dieu par rapport à un sujet.
Voilà. Dieu a dispatché ses idées dans différentes époques, avec différents prophètes. Maintenant, Dieu dit quoi? C'est à toi et à moi de chercher.
D'où le verbe méditer la parole de Dieu, voilà. Et non la lecture de la parole de Dieu.
Voilà.
Dans 2 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2, versets 10 à 12, il est dit ceci. Mais je peux commencer au verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Par l'Esprit, attention. Hein. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
Amen.
Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.
Amen.
Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.
Amen.
Vous voulez connaître les choses de Dieu, premièrement, il faut recevoir l'Esprit de Dieu. Par la nouvelle naissance en Jésus-Christ, Dieu vous donne son Esprit. Et une fois que vous avez son Esprit, je suis tenté de dire, travaillez avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vous révèle la pensée de Dieu. Parce qu'il est le seul qui connaît la pensée de Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu et nous les fait connaître au travers de sa parole.
C'est vrai ce que tu dis.
Nous sommes toujours sur la parabole du Samaritain, hein, l'introduction.
Nous sommes dans l'introduction, toujours dans ce texte de Corinthiens. Si tu recules juste un peu, on est dans 1 Corinthiens 2, verset 6, je lis. « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. » J'insiste, la sagesse, c'est la parole. Verset 7. « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » On dit que c'est une sagesse qui est mystérieuse et qui est cachée. Verset 8. « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur. » Ils attendaient un Messie, mais ils étaient devant le Messie. Mais ils l'ont tué sans savoir que c'était lui le Messie.
Le Sauveur.
Il y avait un voile devant eux. C'est-à-dire, pour eux, possédant la loi, mais c'était une parabole parce qu'ils ne l'avaient pas compris. Il fallait qu'on leur explique clairement que, en fait, la loi là que vous avez, tout ce que Moïse a dit, en fait, ça concernait l'homme que vous voulez tuer. C'était ça. Mais ils n'ont rien compris. Parce que la Bible, on ne doit pas la lire comme un journal. On a besoin de l'Esprit. On a besoin de l'aide de Dieu. Voilà. C'est pour cela que Dieu a besoin de toi, mon frère, pour sauver beaucoup de gens. Dieu a besoin de toi pour aider des milliers. Comme le dit toujours Paul, je suis dans Romains chapitre 8, au verset. Je lis la parole. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voilà. Donc, il y a une gloire que nous ne connaissons pas, qui est cachée. mais elle ne sera révélée. Aussi, la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. La création, le monde, il sait que la parole de Dieu est vraie. Et il attend cette vérité au travers de ses enfants que vous êtes, que nous sommes. Il sait que lui, c'est un chrétien. Donc, sûrement, ce que je ne comprends pas, il peut m'expliquer. Un païen peut venir en critiquant. Ah, vous, les chrétiens, vous êtes ceci, cela. Mais en fait, en réalité, il attend. Il attend une vérité parce qu'il sait au plus profond de lui que la parole est vraie. Nous sommes la lumière du monde.
Le sel de la terre.
Tu es la sel, le sel de la terre, mon frère, ma sœur. N'oublie jamais ça. Joue bien ton rôle. Car le rôle que tu seras en train de jouer sur la terre aura un impact pour toi dans ta vie. D'abord sur terre, mais encore et surtout dans l'éternité, où le Seigneur va te dire, bon et fidèle serviteur, tu as été une bénédiction pour les autres, tu as été un chemin par lequel mes bénédictions sont passées, mais pour ça tu dois chercher Dieu, par la prière, par la parole. Tu dois te discipliner pour être une bénédiction comme l'ont été Joseph, par exemple, comme l'ont été des hommes comme Daniel. Les deux, si je peux me limiter à ces deux personnes, ils ont été des bénédictions pour des autorités païennes de l'époque. Pharaon avait du mal à comprendre un songe et il s'éteint devant Joseph, il dit « J'ai eu un songe et personne ne peut me l'expliquer. » Et Joseph a expliqué le songe et ça bénit l'Égypte, ça a épargné l'Égypte d'un danger parce que il pouvait facilement comprendre les songes qui étaient une énigme, une parabole pour le Pharaon. La même chose pour Daniel. Alors pour Joseph, vous lirez ça dans Genèse chapitre 41, versets 15 à 16. Daniel, dans Daniel 2, 3 à 23, Nabucodonosor, mon frère, c'était terrible. Il a eu un songe qu'il a oublié.
Ça, c'est grave.
Hein? Et puis, il demande, rappelez-moi d'abord ce que moi j'ai rêvé.
Donnez-moi l'explication.
Il faut voir la réaction des magiciens. Il dit, en tout cas, roi, depuis que les rois ont existé.
C'est la première fois qu'on me demande une telle chose.
En tout cas, ça n'a jamais existé. Un roi qui demande qu'on lui rappelle d'abord.
Le songe. Et puis qu'on lui donne l'explication.
Ils ont précisé, aucun magicien ne peut faire ça. Aucun. C'est vrai. Il y a des choses que même Satan ne peut pas faire.
Parce qu'il est limité, justement. Oui. Mais parce que Dieu, c'est une créature, justement.
Dieu est le seul qui peut faire des choses que même Satan ne peut pas faire. Donc, et il le fait comment? Il le fait au travers de ses enfants. Une parabole mérite que ses enfants l'expliquent. Nous tendons là déjà à atterrir à la fin de cette introduction. Mais je voudrais aussi attirer votre attention sur ce texte de Matthieu 13, où l'on voit un peu comment Jésus-Christ s'attelait à parler en parabole. Matthieu 13, je suis au verset 10, je lis la parole. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Et que cela ne leur a pas été donné. Je vais continuer, mais regardez ce verset. Très important. Il insiste. Le royaume des cieux a des mystères. Mais c'est à vous de connaître. Vous, les disciples. C'est vous qui devez connaître. Mais eux, c'est pas le cas. Je suis au verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible.
Les insensibles, ce sont ceux et celles qui ne marchent pas avec Christ.
Oui. Ceux qui écoutent la parole et pour eux, ça ne leur dit rien. Ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Voilà. En fait, ces hommes. Si pour eux la parole de Dieu était une parabole, c'est parce qu'ils étaient insensibles, c'est parce qu'ils avaient un cœur endurci, ils étaient incrédules. Un incrédule, c'est cette personne qui connaît des vérités concernant Dieu, mais refuse d'obéir, refuse de fléchir genoux. Il doute. Tu sais bien que le vol là que tu fais, c'est mal. Mais tu dis non, Dieu va comprendre. Tu continues. Tu sais bien que ces images pornographiques sont mauvaises. Mais tu dis non, Dieu va faire grâce. Tu es incrédule. Dieu est incrédule. Tu risques, tu tends vers un danger. Un danger, c'est-à-dire, tu es en train de descendre vers une voie telle que la parole là que tu prêches en tant que prédicateur va devenir pour toi une parabole. À un moment, tu vas commencer à prêcher des choses. Tu es limité parce que tu descends vers le mal. Non, mon frère, vous qui nous écoutez, maman, vous qui nous écoutez, vous à qui Dieu a toujours dit, priez sans cesse, invoque-moi, je te répondrai, obéissez à la voix de Dieu. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si c'est vrai que vous entendez la voix de Dieu, je vous en supplie, écoutez la voix de Dieu. Cherchez le Seigneur, afin que la parole de Dieu ne soit pas pour une parabole, afin que Dieu ne se limite pas à vous parler en parabole. Oui, mais que vous soyez ces hommes qui vont bénéficier des explications du Seigneur, parce que Dieu veut vous amener le salut, c'est-à-dire Dieu veut que vous puissiez passer l'éternité avec lui. C'est très important. Et nous devons ne pas être des incrédules, parce que être incrédule est dangereux pour nous aussi dans l'éternité. Qu'est-ce que nous dirons? Là, nous regretterons, eh bien, ah oui, fallait bien qu'on soit fidèle à Dieu, mais nous avons été infidèles.
J'aime bien ce verset de Marc 12. Marc 12, verset 24. On est toujours sur la manière d'interpréter la parole de Dieu, de la comprendre, la nécessité d'avoir l'Esprit de Dieu. Jésus dit ceci dans Marc 12, verset 24. Après une discussion avec les docteurs de la loi, Jésus donne cette réponse dans Marc 12, verset 24. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. »
Amen.
C'est choquant que quelqu'un te dise, toi docteur de la loi, toi qui enseignes la parole de Dieu, depuis peut-être ton plus jeune âge, mais Jésus est la parole de Dieu, il te dit, tu ne comprends ni les Écritures,
ni la puissance de Dieu.
Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas les Écritures? Parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut t'aider à interpréter. Un homme de Dieu a dit, nous les chrétiens, nous avons une grâce, parmi les nombreuses grâces que Dieu nous a faites, celle d'avoir à nos côtés, ou en nous, l'auteur de la Bible. Parce que Pierre dira, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu, ont écrit de la part de Dieu. C'est vrai que nous lisons Marc, nous disons celui qui a mis ça sur papier, c'est Marc, c'est vrai. Mais en fait, le véritable auteur, c'est le Saint-Esprit.
Amen.
Et le Saint-Esprit est en nous. Donc, c'est l'auteur de la Bible. Et nous avons cet auteur en nous. Et puisque c'est lui qui a inspiré, il est disposé à nous faire comprendre les choses de Dieu. Mais pour que nous puissions comprendre, il faut que nous soyons disposés à l'écouter. Le Saint-Esprit, quelqu'un dit, c'est le plus grand gentleman. Il ne force personne. Mais si nous prenons le temps de l'écouter, il va nous expliquer les choses. Et Jésus dit, vous ne comprenez ni les Écritures. Donc vous lisez et vous tapez toujours à côté.
Comme un journal.
Tapez à côté. Et quand vous dites certaines choses qui sont vraies, c'est parce que quelqu'un qui a été près de Dieu, qui a compris les révélations de Dieu, à qui le Saint-Esprit a ouvert les fenêtres, c'est celui-là qui vous a expliqué, alors vous avez commencé à répéter ça.
Oui.
Ça, c'est pas une mauvaise chose, mais le problème, c'est que vous ne vous limitez que dans l'angle dans lequel le Saint-Esprit vous a donné une fenêtre. C'est alors ça. Qu'il y a d'autres fenêtres.
Oui.
Mais pour que vous puissiez maximiser cet enseignement au maximum, il faut coopérer, il faut travailler avec le Saint-Esprit. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Notre désir, lorsque nous allons commencer à exploiter à fond la parabole du Samaritain, c'est de vous permettre de vous communiquer la parole de Dieu, la vie de Dieu au travers de ce message. Mon frère, ma sœur, ça fait je ne sais pas combien d'années, vous, peut-être vous marchez avec le Seigneur, ou bien peut-être vous commencez à lire la Bible, et puis vous avez été buté à des difficultés dans le sens que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas grave. Revenez auprès du Saint-Esprit. Laissez-lui vous enseigner, parce que c'est lui le plus grand des enseignants. Laissez-lui vous enseigner la parole de Dieu. Vous lisez simplement, méditez, réfléchissez, priez, et laissez le Saint-Esprit vous communiquer la pensée de Dieu. J'aime ce que Paul a dit. Ce n'est que le Saint-Esprit qui va sonder les profondeurs de Dieu, qui pourra vous faire connaître les choses de Dieu. Et le Saint-Esprit, il est saint. Saint-Esprit. Il ne vient pas habiter dans un corps où il y a un péché. Seul Christ peut changer un corps de péché en un temple de Dieu. Et c'est cette opportunité qu'il vous donne aujourd'hui. Au moment où nous sommes en train de finir cette émission, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière. Et je voudrais prier pour vous. Pour que vous puissiez vous remettre en ordre avec Jésus-Christ, afin de marcher et de recevoir les révélations de la part du Saint-Esprit. Laissons la tête dans la prière. Père éternel, je viens te présenter mon frère, ma sœur qui nous écoute en ce moment, Seigneur. Ils veulent des révélations de ta part. Ils veulent connaître des mystères cachés, Seigneur. Mais ils n'ont pas marché droitement avec toi. Et ils le reconnaissent aujourd'hui devant toi, Père éternel. Ils te demandent pardon. Purifie-les avec le sang de Jésus-Christ. Lave-les avec le sang de Jésus-Christ. Accorde-leur cette grâce d'être renouvelés par l'Esprit de Dieu. Père, merci pour ton amour qui ne tarit jamais. Merci pour ta grâce qui ne s'épuise pas tant que nous sommes vivants. Et nous croyons que en Jésus-Christ, tu leur accordais ton pardon. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Si vous m'avez accompagné dans cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou et le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous recevons encore aujourd'hui Jonathan Junior Mambou. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la parabole du Samaritain. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
À la fois prochaine et que Dieu vous bénisse.
Amen.
Amen.
L'émission Venez à Jésus vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.